Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde a eu les textes?
Ah non, moi je...
Je t'en ai un.
Ok.
Voilà. Donc, les prolongements moraux et politiques de l'évolution créatrice dans les deux sources de la morale et de la religion. Soit un titre pour un petit peu long. Voilà, donc pour introduire déjà, je vais contextualiser très très rapidement les deux sources de la morale et de la religion qui est... Ça va, je parle assez fort? Ouais. Qui est le dernier livre publié par Bergson en 1932. Je dis bien le dernier livre, puisqu'après il y aura un recueil de conférences, mais c'est son dernier livre conçu comme un livre de bout en bout. Et donc c'est le livre qui semble conclure l'œuvre. Et il est souvent présenté comme l'exposé d'une morale bergsonienne, ou, ce qui revient à peu près à la même chose, l'application du bergsonisme à la morale et à la politique. Or, c'est un tort de le présenter comme cela, parce que ça laisserait penser qu'il y avait une doctrine toute prête qu'on appellerait le bergsonisme et qu'on appliquerait le bergsonisme à un objet qui serait moral et politique, qui aurait plus qu'à l'appliquer à la morale et à la politique. Or, une telle vision des choses est complètement contraire à la démarche bergsonienne. Parce que la caricature qu'on fait souvent de Bergson, c'est le philosophe qui n'aurait eu qu'une seule idée dans sa vie, la durée, et puis après il l'aurait appliquée à tout, à la vie, ce que vous faites avec l'évolution créatrice. Avant, alors il a eu l'idée de la durée dans l'essai sur les données immédiates de la conscience. Entre l'essai sur les données immédiates de la conscience et l'évolution créatrice, il y a matière et mémoire, donc là où il l'applique à la mémoire, puis après, voilà, il l'aurait appliqué à différents éléments. Mais justement, en réalité, l'idée de la durée, c'est l'idée de nouveauté, l'idée de création. Et donc, chez Bergson, dans toutes ses œuvres, il y a une attention permanente à ce qu'il y a de radicalement nouveau dans ces objets. Donc, de fait, il n'y a jamais de doctrine préconçue chez Bergson. Il y a toujours une attention à la nouveauté. D'ailleurs, dans un de ses entretiens, il dit bien « Il ne faut pas faire des livres, il faut que le livre se fasse. » Et pourtant, si on croit qu'il s'agit de la morale bergsonienne, c'est parce qu'en fait, il y a une attente extrêmement forte et une attente aussi extrêmement longue. Dès 1911, dans un de ses entretiens, donc 1911, c'est 4 ans après l'évolution créatrice, hein, donc il est encore dans... L'évolution créatrice le fait changer de dimension, hein, il passe au niveau international, et il est encore dans les effets de l'évolution créatrice. Et dans un de ses entretiens, il dit « Je veux arriver à une morale, je veux arriver à quelque chose qui serve la pratique. » Et dans ce même entretien, il évoque aussi sa découverte des mystiques. On est en 1911. Et il va falloir attendre 1932, donc 20 ans, 21 ans, pour que le livre se fasse, comme il dit. Alors pourquoi? Peut-être parce que l'articulation entre la morale et politique d'un côté et les conceptions de la vie, la conception de la vie qu'a développée Bergson dans l'évolution créatrice, peut-être que cette articulation, en fait, n'est pas évidente. D'abord, pour une raison assez qui nous paraît évidente, même si on va voir qu'elle est fausse, c'est que politique et morale ne semblent pas naturelles. Ce sont des produits de la culture. En règle générale, on a tendance à faire une grande distinction nature-culture, et la politique et la morale sont des produits culturels. Et donc ça, c'est un premier problème. Donc du coup, difficile d'articuler politique et morale avec une conception de la vie telle qu'il a eue dans l'évolution créatrice. Et puis, quand on cherche à avoir une vision biologique de la vie sociale, puisque dans l'évolution créatrice, il est très attentif à justement une vision biologique de l'homme, de l'évolution de la vie qui aboutit à l'homme in fine. Quand on cherche à avoir une vision biologique de la vie sociale, on tombe sur une vision en fait organiciste de la vie sociale, c'est-à-dire où chaque individu se réduit à une fonction. Or, le problème, c'est qu'une telle vision organiciste de la vie sociale, ça serait une illusion de l'intellectualisme. Et ça serait ne pas être attentif au processus vital, à l'élan vital, comme on va revoir rapidement. C'est-à-dire que si l'évolution de la vie a conduit au fait que l'homme vive en société, a conduit l'homme à vivre en société, eh bien, c'est qu'en réalité, la vie sociale est une création de l'élan vital. Ça ne peut pas être autrement. Et ce qui permet la vie sociale est aussi une création de la vie. Sauf que les formes que prennent la vie sociale, les formes que prend pardon, la vie sociale, semblent nous éloigner du courant de la vie. C'est-à-dire qu'il suffit de prendre un exemple qui n'est qu'un exemple provisoire, hein, on va y revenir. Si on prend les habitudes, les obligations qu'on suit en permanence dans notre vie sociale, obligations professionnelles, familiales, toutes ces habitudes, en fait, qui sont nécessaires à la vie en société, elles semblent nous conduire à un refus de l'élan vital. Justement, elles nous contraignent, elles nous empêchent de nous élancer comme on le souhaiterait. Elles nous contraignent. À tel point que l'homme en société, alors que la vie sociale est nécessaire à la vie de l'homme, hein, mais l'homme en société ne semble jamais réellement lui-même. On est toujours, la société semble nous empêcher. Mais d'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'on pourrait presque la définir. L'ensemble des normes sociales nous empêche. Donc, du coup, on arrive à une problématique qui est que comment la vie sociale peut-elle reposer sur des formes aussi contraires au courant créateur de la vie ? Donc, comment la vie sociale peut-elle reposer sur des formes aussi contraires au courant créateur de la vie alors qu'elle est créée par la vie elle-même ? Et puisqu'on a dit que l'homme n'était pas vraiment lui-même en société, comment pourrait-on faire aussi pour que l'homme soit pleinement lui-même en société ? Alors, pour comprendre cela, eh bien, il faut revenir au fait que l'humanité, c'est un produit de l'évolution de la vie, ce qui sera donc ma première partie. Et il faut repartir d'une évidence que parfois les philosophes ont tendance à oublier, comme le note Bergson, nous sommes des êtres vivants. Et donc, on ne peut pas ignorer cela pour analyser notre façon de vivre. On ne peut pas oublier que nous sommes des êtres vivants. Et c'est pour cela que la vie en société est forcément un produit de la vie, et même un produit de l'évolution de la vie. À tel point qu'on pourrait dire que les deux sources de la morale et de la religion, on pourrait presque le présenter comme le tome 2 de l'évolution créatrice, en fait. C'est-à-dire que, d'abord, les références à l'évolution créatrice sont constantes, mais vraiment, vraiment constantes. On a presque, si vous regardez là, tous les petits papiers que j'ai mis sur le livre, c'est à peu près l'ensemble des références. Et donc, en fait, après avoir montré en quel sens donner à l'évolution de la vie, ça c'est l'évolution créatrice, eh bien, il faut voir en fait plus en détail la production de l'espèce humaine. Et notamment comment l'espèce humaine vit concrètement. Puisque dans l'évolution créatrice, il y a quelques éléments sur la constitution de l'espèce humaine, mais non pas sur comment se passe la vie concrète de l'homme. Et donc, pour comprendre tout ça, il faut repartir du début un petit peu, à savoir repartir de l'élan vital et redévelopper un petit peu ses conséquences. Autrement dit, je vais d'abord faire quelques rappels, même si vous êtes des spécialistes dans l'élan vital. Et puis surtout que c'est quand même quelque chose de très compréhensible. Donc, alors, si la vie est une création continue, c'est du fait de l'élan vital. C'est à ça qu'aboutit le premier chapitre de l'évolution créatrice. Et l'élan vital, alors, comment le définir ? On ne peut en passer que par des métaphores. C'est une énergie vitale, c'est un courant de vie qui traverse la matière, qui l'informe au sens qui lui donne forme, qui l'organise, c'est-à-dire qui fait de la matière une matière vivante, une matière organisée. Donc l'élan vital va donner des êtres vivants. La matière étant à la fois ce qui résiste, hein, donc puisque le courant de vie, l'élan vital rencontre la matière étant à la fois ce qui résiste à l'élan vital, ce qui s'oppose à l'élan vital, mais aussi ce qui permet son expression. C'est-à-dire que si l'élan vital ne rencontre pas de matière, il aurait peut-être existé, mais on n'en sait rien. On n'aurait aucune trace. Donc, En fait, face aux résistances de la matière, la vie, l'élan vital, va créer une forme pour contourner les résistances, pour s'exprimer malgré tout. Et à chaque fois, elle invente, elle crée une forme radicalement nouvelle. Donc ce qui entraîne, ce qui est le point un peu compliqué dans le premier chapitre hein, de l'évolution créatrice, ce qui entraîne qu'il n'y a ni mécanisme, puisque quelque part la matière invente toujours quelque chose de nouveau qu'on ne peut pas prévoir, ni finalisme, il n'y a pas de plan. Voilà, on ne sait pas où va la vie. Elle se retrouve en face d'un problème, et ben elle se débrouille en fait. Elle invente un truc pour pouvoir continuer à avancer. Et la conséquence de cela, c'est que l'évolution, on est en face d'une évolution de la vie qui se fait par saut brusque. C'est-à-dire que comme c'est un mouvement de la vie qui cherche à s'exprimer, eh bien, un moment, une fois qu'elle a trouvé une solution au problème que la matière lui oppose, eh bien, c'est comme si elle avait sauté un problème, comme si elle avait sauté un obstacle, et donc il y a un grand bond. Et donc, ce qui nous est donné à nous, c'est la sédimentation. Alors, le terme n'est pas très correct, mais on va l'adopter pour l'instant. La sédimentation dans les espèces, dans les individus, de l'élan vital. Et on a des restes. En fait, on a un reste en nous. On pourrait dire que notre énergie vitale, c'est le reste en nous de l'élan vital. Or, l'important, c'est de bien comprendre la résistance de la matière. La résistance de la matière va donner différentes tendances de la vie. Il va y avoir différentes branches. Là, je fais quelques spoilers sur le chapitre 2. C'est-à-dire qu'il va y avoir différentes branches de l'évolution. Différentes branches de l'évolution qui sont autant de manières d'informer la matière pour tourner les obstacles. Alors, il y a d'abord une première branche qui n'intéresse pas trop Bergson, mais il en parle rapidement, qui est les végétaux. Les végétaux, c'est une forme qui a trouvé la vie pour tourner une première résistance de la matière. Mais, bon, elle se retrouve bloquée. Et donc, il y a une deuxième branche qui est la branche dans le monde animal. Et là, la vie va prendre deux formes dans le monde animal. Elle va prendre la forme de l'instinct, d'un côté, et la forme de l'intelligence. Instinct et intelligence, ce sont deux formes que prend l'élan vital, que prend la vie, pour justement tourner la résistance de la matière. Et instinct et intelligence sont en fait deux types d'actions dans le monde. Donc il s'agit... je fais à gros traits, hein, parce que surtout là, c'est Bergson est très subtil dans ses... Mais bon. Donc, alors, il s'agit du coup d'essayer de définir rapidement instinct et intelligence. Alors, l'intelligence, Bergson l'a définie primitivement comme la capacité à fabriquer et à employer des instruments inorganisés. Donc, autrement dit, la capacité à fabriquer et employer des outils à partir de la matière inerte. Donc, l'intelligence va travailler sur la matière inerte. Et de ce fait, comme elle travaille sur la matière inerte, eh bien, l'intelligence va avoir une tendance à décomposer le réel, à justement toujours chercher le discontinu. Elle analyse. Et aussi, donc, à décomposer le réel. Et du coup, forcément, pour fabriquer, on décompose le réel. Et puis après, bah, on le recompose. Donc la deuxième grande activité de l'intelligence, c'est pour fabriquer, elle compose des systèmes. Donc capacité à fabriquer des instruments inorganisés, donc décomposer, découper le réel, pour le recomposer ensuite et pour pouvoir agir sur le monde. Donc, typiquement, fabrication d'outils. J'ai un bout de bois que je considère là comme inorganisé, puisque je sais pas, il est mort, parce que voilà. J'ai une pierre. Je vais associer les deux pour faire une hache, pour faire ce que vous voulez. Et donc, du coup, à partir de là, avec ma hache, je peux travailler le réel. Et l'intelligence, de fait de sa capacité à décomposer, analyser et recomposer, synthétiser, eh bien, elle est capable de s'appliquer absolument à tous les objets du monde. C'est la grande qualité de l'intelligence, c'est-à-dire que l'exemple type, c'est quand on nous apprend une méthode pour faire quelque chose. Je sais pas, un démonstrateur de Le Roi Merlin nous montre comment utiliser un outil sur une planche de bois qui est, je sais pas, du pain. Et ben, il nous montre donc comment utiliser la perceuse sur du pain. Si chez nous on a du chêne, ben on va savoir comment transposer l'utilisation de l'outil sur du chêne. Et puis même, si on est un tueur de la mafia, on va pouvoir transposer cette utilisation de la perceuse sur un homme. Il n'y a pas de problème. On est capable de transposer sur absolument tout. C'est ce qui fait qu'on est capable de méthode, en fait, l'intelligence. Quand on donne une méthode de dissertation à des élèves, heureusement pour eux, on leur donne à partir d'une disserte sur tel sujet, heureusement pour eux, après, ils sont capables, on espère, ils sont capables de reproduire la méthode sur un autre sujet. C'est ça. Donc, on est capable de reproduire sur d'autres sujets. Et donc, c'est ce qui en fait un moyen d'action sur le monde. C'est une connaissance en vue de l'action. L'intelligence est une connaissance en vue de l'action. D'ailleurs, l'instinct aussi. Mais, justement, comme elle est capable de s'appliquer à tous les objets, on peut la détourner de son but initial. Et, donc, son but initial qui est l'action, hein, c'est-à-dire que je vais connaître parfaitement cette bouteille pour pouvoir savoir comment l'ouvrir, voilà, et donc pour pouvoir boire et ne pas mourir de soif. Voilà. Mais à partir de là, je peux me mettre à spéculer sur la bouteille et à réfléchir sur la rêverie poétique que pourrait m'inspirer l'eau. Donc voilà, je peux détourner l'intelligence de son but initial qui était l'action pour spéculer. Sauf que en fait, quand on spécule avec l'intelligence, ça ne fonctionne pas très bien. Ça ne fonctionne pas très bien parce que comme c'est quelque chose qui est fait pour l'action, eh ben c'est pas bien fait pour la spéculation, pour la connaissance profonde des choses. En fait, l'intelligence, on pourrait, si on voulait la comparer à quelque chose, c'est un couteau. Ça permet de découper le réel en différents objets pour pouvoir les utiliser. Et le réel, justement, c'est un flux. C'est de la purée. Et ben donc, c'est quand on spécule, quand on essaye de connaître le réel pour la beauté du geste, c'est comme si on essayait de manger de la purée avec un couteau. Voilà. Donc, dernier élément que fournit l'intelligence, c'est la capacité de choix. Forcément, puisqu'elle est capable de s'appliquer à différents objets, on est capable de choisir. On est capable de choisir la meilleure méthode, choisir le meilleur exemple, choisir ce qu'on veut. Donc voilà pour une présentation succincte de l'intelligence. À côté, donc, on a l'autre, première forme qui a pris la vie, enfin, ce qui est la deuxième. Voilà, une forme qui a pris la vie, c'est l'intelligence. L'autre forme qui a pris la vie, c'est l'instinct. L'instinct, la définition initiale qu'en donne Bergson, c'est la capacité à utiliser des instruments organisés. Autrement dit, l'instinct travaille, lui, sur de la matière vivante. Il est capable d'agir, mais en utilisant la matière vivante. Et donc, en fait, l'instinct, il ne fait que poursuivre le mouvement de la vie, le mouvement de l'élan vital. Donc, c'est une connaissance interne de la vie pour pouvoir agir. L'exemple que prend Bergson, c'est justement tel animal qui connaît parfaitement, donc tel prédateur qui connaît parfaitement sa proie, et donc qui sait exactement où attaquer sa proie pour pouvoir se nourrir, en fait. Et donc, si on est sur on est notamment sur des insectes, donc comment tel insecte prédateur, je suis désolé, j'ai oublié les noms, mais comment tel insecte prédateur sait qu'il faut neutraliser tel insecte proie en 9 points différents de son système nerveux. Voilà. Ben c'est de l'instinct. Il le sait de manière interne. Donc, autrement dit, l'instinct, c'est une connaissance par sympathie. Donc, on connaît profondément l'objet. Donc, la vie se connaît profondément par l'instinct. Le problème, c'est que, justement, le prédateur qui sait parfaitement où attaquer sa proie, ben, ça marche pour telle proie, pour telle espèce, même... telle sous-espèce de proie. Et donc, l'instinct ne peut pas s'appliquer à autre chose. Donc, Bergson, il en conclut une chose fondamentale, c'est qu'il y a des choses que seule l'intelligence est capable de chercher, puisqu'elle est capable de s'appliquer à tout, mais que seul l'instinct pourrait trouver. L'intelligence les cherche, mais ne pourra jamais les trouver. Et l'instinct pourrait les trouver, mais ne les cherchera jamais. Dernier point quand même qui est très important, c'est que en fait, c'est deux, on parle bien de tendance de la vie. À savoir que si c'est des tendances, on ne trouvera jamais réalisé à l'état pur l'instinct. On ne trouvera jamais réalisé à l'état pur l'intelligence. Alors, l'instinct est toujours... Alors, il en parle rapidement, parce que c'est la conséquence logique de son développement, mais il insiste peu là-dessus, puisque forcément, pour pouvoir trouver des exemples, il faudrait être un animal instinctif, ce qu'on n'est pas. Mais l'instinct est toujours entouré d'intelligence. Malgré tout, voilà, un animal, quand il est confronté à une situation, il arrive quand même vaguement à appliquer un tout petit peu d'intelligence, même si après, il retombe dans l'instinct. Inversement, l'intelligence est toujours entourée aussi, alors, de quelque chose qui ressemble à l'instinct, d'un halo d'instinct, ce qui va donner l'intuition, en fait. L'intuition, c'est... Alors Bergson l'a défini comme l'instinct désintéressé et conscient de lui-même. Soit plus vraiment un instinct, puisque l'instinct... Mais bon. Donc, autrement dit, c'est le halo d'instinct qui entoure l'intelligence. Ça correspond à ça. Alors, premier point, donc, c'est les moments où l'être plutôt intelligent, donc l'homme, hein, pour faire court, l'être plutôt intelligent parvient à une connaissance interne de la vie. L'exemple, ça correspond exactement à ce qu'il dit au début de l'évolution créatrice sur la durée. Quand on fait l'expérience de la durée, quand on fait l'expérience du temps interne, de notre temps interne, alors l'exemple que je prends typiquement, c'est vous vous ennuyez actuellement, cette intervention a beau faire une heure, en fait, elle vous paraîtra 10. Donc, dans votre temps interne, ça sera 10. Alors, à l'inverse, et j'espère que c'est le cas, si vous passez un très bon moment, cette même heure vous paraîtra 10 minutes. Et donc, ça, c'est votre temps interne, ce qui ne correspond à rien au niveau de l'intelligence, mais qui est ce que vous vivez profondément, ce que vous ressentez. Et ça, c'est une donnée de l'intuition, quand même, d'une certaine manière. Le problème, c'est donc que l'intuition, c'est un moment qui est rare et bref, puisque comme c'est quelque chose qui n'est pas intellectuel, très vite, on essaye de la ressaisir par l'intelligence. Et au moment où on essaie de la ressaisir par l'intelligence, bah, on la perd. On peut prendre, si vous voulez, l'exemple typique, c'est l'exemple de la Madeleine chez Proust. Au moment où il croque la Madeleine, où son enfance lui revient en sensation, première bouchée, elle lui revient en sensation. Et il veut justement la comprendre, l'analyser. Il croque une deuxième bouchée, et là, c'est parti, ça s'enfuit. Et même chose pour la durée. Une fois qu'on essaye de comprendre « ah bah je m'ennuie », on a décomposé en fait notre sentiment de temps interne et on le perd aussi. Voilà. Dernière conséquence qu'il est important de savoir pour comprendre, je ne sais pas si vous en avez parlé, dernier point, c'est qu'il faut savoir aussi que l'élan vital, puisque c'est un élan, hein, c'est une poussée, l'élan vital est fini, normalement. Dernier acquis de l'évolution créatrice, c'est que l'élan vital est fini. Voilà. Alors, à partir de ces quelques rappels, il faut voir les conséquences sur la vie en société. Et donc, on arrive au petit 2 de ma première partie. Les conséquences pour la vie en société, à savoir que l'homme, en tant qu'être vivant, il est plutôt intelligent. Voilà. Bon, on va dire qu'il a l'intelligence. Il est plutôt sur la branche qui donne l'intelligence. Et aussi, en tant qu'être vivant, il développe une vie sociale. Et d'ailleurs, ce sont les formes qu'a pris la vie pour contourner les obstacles. Donc, autrement dit, il s'agit de voir comment la vie organise-t-elle la vie sociale de l'homme. Surtout qu'il y a un élément réellement nouveau dans les deux sources, déjà au niveau du rapport à la vie sociale, dans les deux sources par rapport à l'évolution créatrice, la vie sociale n'est plus une forme de la vie parmi d'autres. En fait, c'est quand même la forme la plus aboutie de la vie, que ce soit sur la branche instinctive, entre guillemets, puisqu'encore une fois, c'est jamais une branche pure, que ce soit sur la branche instinctive avec les insectes hyménoptères, ou que ce soit sur la branche intelligence avec les hommes. C'est ce que dit, c'est exactement ce que dit le début du texte 1 que vous avez sur l'exemple. Hein. Considérons deux lignes divergentes d'évolution et des sociétés à l'extrémité de l'une et de l'autre. Le type de société qui paraîtra le plus naturel sera bien évidemment le type instinctif. Donc, dans les deux cas, si on prend les deux branches divergentes de l'évolution, il y a quand même la vie sociale à la fin de ces deux branches de l'évolution. Donc, or, justement, ce que dit ce texte 1, si on continue un petit peu plus loin, le type de société qui paraîtra le plus naturel sera évidemment le type instinctif, puisque le lien qui unit entre elles les abeilles de la ruche ressemble beaucoup plus à celui qui retient ensemble les cellules d'un organisme. Autrement dit, la société instinctive, la ruche, la fourmilière, n'a pas de problème. Elle n'a pas de problème parce que chacun a un rôle attribué par l'instinct. Et cet individu fourmi, cet individu abeille, l'ouvrière, la guerrière, la nourricière, eh bien, ne sort pas de son rôle. Donc la vie sociale se déroule sans problème. La fourmilière ne dysfonctionne jamais complètement. Du côté de l'intelligence, ça pose un problème, puisque entre la capacité de s'interroger et la liberté de choix que fournisse l'intelligence, eh bien, il y a un risque de s'écarter de la vie sociale, de ne penser qu'à soi en tant qu'individu. Or, la vie sociale, c'est une nécessité vitale. Donc, il faut que l'obligation remplace l'instinct. Les obligations sociales, en fait, elles remplacent l'instinct. Enfin, plutôt que l'obligation, en fait, il faudrait dire l'ensemble des obligations sociales. Puisque, voilà, c'est ce qu'il dit, hein, c'est là précisément ce que nous avons appelé le tout de l'obligation. Les obligations sociales, l'ensemble des obligations sociales forment le tout de ce que Bergson appelle le tout de l'obligation. Le tout de l'obligation, c'est que à l'intérieur d'une société, chaque micro-obligation familiale, professionnelle, amicale, morale, voilà, religieuse aussi, même si je vais la laisser de côté un petit peu, mais toutes ces petites obligations et la multiplicité de prescriptions de morale, dis bonjour à la dame, on ne dit pas cordialement quand on écrit un supérieur. Toute cette multiplicité de micro-obligations sociales se tiennent les unes les autres, forment un ensemble qui a un seul but, c'est de maintenir l'individu attaché à la société. Et donc, au fond, peu importe qu'elle change, ça, c'est pas très grave. D'ailleurs, suivant les cultures, les obligations ne sont pas les mêmes. Et puis, avec l'évolution de la société, voilà, je disais, on n'écrit pas cordialement à un supérieur. Moi, quand un élève m'écrit cordialement, je suis déjà super content, en fait. Voilà. Donc, de fait, c'est pas très grave. Mais l'important, c'est qu'il y ait cet ensemble d'obligations. Elles sont tellement intégrées à l'individu, puisqu'on nous les apprend dès notre naissance, quasiment. Elles sont tellement intégrées qu'elles deviennent des habitudes. Et les habitudes, c'est le moment où, en fait, on a tellement intégré les obligations que on reste attaché à la société sans aucun problème. Cela forme une pression qui nous maintient spontanément dans la société, qui nous attache à elle. Et, en fait, que l'on ne ressent même pas. La majorité des obligations sociales, on ne les ressent pas. Alors, vous allez me dire, mais c'est quand même très étrange, parce que justement, voilà, normalement, quand on emploie le terme obligation, c'est qu'on sent quelque chose qui pèse sur nous. Voilà. Donc, voilà. Mais en fait, ce qu'on ressent, ce n'est pas l'obligation. C'est parce que c'est notre tendance à vouloir nous éloigner de l'obligation. Et en fait, c'est parce que. Donc, c'est notre résistance à l'obligation, et on résiste. Parce qu'on sait que la vie en société, enfin, on sait où on sent, voilà. On sait que la vie en société, on résiste à nos résistances. Donc, quand on ressent la pression, d'abord, c'est assez rare, en fait, qu'on ressente la pression, puisque là, on s'est tous dit bonjour en rentrant, personne, enfin, voilà, j'espère, sinon vous avez tourné une résistance à la résistance, personne n'a eu l'impression de faire un effort surhumain en se disant bonjour à, voilà. Donc c'est qu'en fait, cette pression sociale, normalement, on la ressent tous. Et quand on la ressent, quand voilà, on dit bonjour à quelqu'un qu'on n'apprécie pas, par exemple, eh bien, en fait, ce n'est pas l'obligation qu'on ressent. C'est on résiste à notre résistance à l'obligation. Donc, on sait qu'il faut dire bonjour à cette personne qu'on n'apprécie pas. Ben voilà, il faut le dire quand même. Mais donc, c'est ce que Bergson appelle la résistance aux résistances. Et autrement dit, il ne faut pas concevoir l'obligation comme une force qui nous soumet, parce que la plupart du temps, ça c'est l'exception. La plupart du temps, en fait, elle est complètement intégrée, cette obligation. Et ce sont les habitudes, les obligations, sont des créations de l'intelligence. Voilà. Ce sont des créations de l'intelligence. Alors, comme on les a tellement intégrées, elles paraissent quasi instinctives, mais quasi instinctives, justement. C'est du quasi, c'est pas de l'instinctif. Et quelque part, comme ce sont des créations de l'intelligence, on pourra les justifier à l'infini, on pourra raffiner à l'infini aussi, les découper en autant de micro-obligations. Ça ne changera pas grand-chose, il y aura toujours ces obligations. Et en revanche, ce qui est nécessaire, c'est que ces obligations existent. Ces obligations doivent exister. Sinon, la société existe. L'ensemble de ces obligations donne ce que Bergson appelle la morale close. C'est très important. La morale close, c'est ce qui permet à la société de se clore sur elle-même. D'où le nom. C'est-à-dire que c'est ce qui maintient la société unie. Et même si la plupart du temps on ne ressent pas la pression, elle agit malgré tout par pression. La morale close agit par pression. Voilà. Bah, les règles de politesse, exemple type. Voilà. Les règles de politesse, on les applique uniquement par pression sociale. Alors, on les a tellement intégrés qu'on ne le sent pas, mais c'est quand même une pression. Voilà. On sait que pour que la vie sociale ne dysfonctionne pas trop, il faut être relativement poli entre nous. Et donc, cette morale close, elle est vitale, au sens où elle est nécessaire à l'espèce. Mais justement, si on en reste là, on retrouve ce qu'on retrouve dans chaque espèce, c'est-à-dire que l'élan, la poussée vitale, c'est un peu perdu. Et dans ce cas-là, elle tourne en boucle. En fait, dans chaque espèce, l'élan vital tourne à l'intérieur de l'espèce. Là, si on en reste à la morale close, à la société close aussi, eh bien, voilà, c'est nécessaire puisqu'on en a besoin pour vivre, mais on a perdu l'élan vital. On en reste, quoi. Sauf que, à côté de cette morale par pression, on est forcé de reconnaître qu'il existe aussi une morale par aspiration. C'est-à-dire que notre action morale n'est pas toujours faite sous la pression de l'obligation. Il y a parfois des actions morales qui donnent plus que ce que l'obligation sociale exigeait. Et même, il y a parfois des actions morales qui contredisent les obligations sociales. Ce sont notamment des actions qui ne visent pas l'utilité de la société, mais qui vise l'ensemble des êtres humains, voire même, dit Bergson, l'ensemble des êtres vivants. C'est ce que dit le texte 2, justement. Et donc, c'est le texte 2, voilà, c'est la morale close, donc il va y avoir la morale ouverte, l'âme ouverte. Et vous voyez, ligne 2, on n'irait pas trop loin, on n'irait même pas assez loin, puisque son amour s'étendra aux animaux, aux plantes, à toute la nature. Donc non seulement c'est une morale qui embrasse l'humanité tout entière, peu importe les qualités, peu importe les nationalités, peu importe tout ça. Donc c'est une morale qui embrasse l'humanité tout entière, et même les êtres vivants. Si on veut se donner un exemple, l'exemple que je trouve le plus parlant, c'est on retrouve cette morale ouverte souvent dans les chansons de Georges Brassens, dans la chanson pour l'Auvergnat, dans chez Jeanne aussi. Et ben voilà, Jeanne, c'est un acte de pure générosité. Peu importe que Brassens, je suppose que c'est Brassens, que Brassens soit locteux, soit complètement un paria, peu importe cela, l'Auvergnat, lui, accorde, lui accorde de la générosité, lui accorde son attention. Donc cette morale ouverte, d'abord, elle n'est pas nécessaire à la vie. Et elle ne peut pas être le produit de l'intelligence. Elle ne peut pas être le produit de l'intelligence puisque justement, elle n'est pas calculée. Elle n'est pas calculée. Donc elle est le produit d'une émotion supra-intellectuelle, dira Bergson. C'est-à-dire, parmi les émotions, il y a des émotions qui sont infra-intellectuelles, qui sont la plupart du temps, hein, quand on se détend, par exemple. Ça, c'est une émotion infra-intellectuelle. Mais il y a des émotions supra-intellectuelles, des émotions qui dépassent, qui débordent l'intelligence. Émotions qu'on peut ressentir, par exemple, dans l'amour, qu'on peut ressentir dans la musique aussi. Donc les deux grands exemples que prend Bergson, c'est l'amour d'un côté et l'art. Une émotion qu'on ressent devant une œuvre d'art, parfois ça ne détend pas, hein, quand vous regardez Tableau de Munch, voilà, c'est pas le truc qui détend le plus. Et pourtant, voilà, ça nous déborde. Et donc, cette morale-là, elle est supra-intellectuelle et elle est créatrice. Elle crée quelque chose de nouveau. Il y a des créateurs en morale. On crée de nouvelles actions qui n'étaient pas attendues. Je veux dire, l'exemple, quand Mandela prend le pouvoir en Afrique du Sud, quelque part, personne, étant donné ce que la population noire d'Afrique du Sud avait subi, personne n'aurait pu lui en vouloir s'il y avait eu quelques débordements et puis s'il y avait eu une forme de vengeance. Voilà. La morale close presque exigeait un peu cette vengeance. La morale close, voilà, on aurait dit, bah voilà, à un moment, vu ce qu'on a subi, un peu à nous de prendre. Et la politique de réconciliation de Mandela, elle scotche tout le monde. Elle est là, d'où ça sort? D'où sort cette grandeur d'âme pour pardonner à son bourreau? Même chose, voilà, la déportée qui a fait gracier, la déportée d'Achaud, je crois, qui a fait gracier son bourreau lors d'un procès, lors du dernier procès de l'épuration dans les années 60. Voilà, on aurait pu attendre, enfin, voilà. Voilà, par conviction chrétienne, il ne faut pas qu'il... Voilà, je ne veux pas que cet homme soit condamné à mort. Voilà. D'où on aurait pu comprendre une certaine vengeance jusqu'à la vessie. Eh bien, il y a quelque chose de nouveau, une création. Donc ce qui veut dire que la morale ouverte, en fait, elle continue l'acte créateur. Elle poursuit l'élan vital. Et même, elle a des racines biologiques, en fait. Elle a des racines biologiques, puisque c'est, quelque part, c'est dans l'élan vital, hein, c'est dans la force de vie qu'on trouve la force nécessaire pour justement pouvoir créer ce comportement inattendu en morale. Mais dans ce cas-là, donc là, on a bien compris comment l'élan vital donnait une forme sociale intelligente. Mais dans ce cas-là, la morale aurait dû suffire. Voilà, la morale permet de tenir les hommes entre eux, et en plus elle permet, dans certains cas, de poursuivre un peu l'élan vital. Donc, on devrait s'arrêter là. Or, on constate une chose, on constate que les préceptes moraux se teintent souvent de religion, de superstition, d'une foi, en règle générale. Et ces manifestations qui sont parfois chimériques, parfois complètement absurdes, quand on pense à certaines superstitions, eh bien, ces manifestations, elles ne paraissent pas nécessaires. Et pourtant, on ne connaisse pas de société qui vivent sans religion. C'est donc que, il faut analyser un peu le statut de la religion par rapport à la vie. Et donc, on arrive à ma deuxième grande partie. Donc, la religion et la vie. Alors, quand on lit les deux sources, donc le problème de la religion, il en est à peine question dans le chapitre, parfois comme en tant qu'obligation sociale, mais jamais plus dans le chapitre 1. Et donc le problème de la religion apparaît comme ça d'un coup, au chapitre 2, et quasiment sans transition. C'est-à-dire que la conclusion du chapitre 1, c'est toute morale ouverte et close, les deux, et biologique. Donc ça, c'est ce qu'on vient d'expliquer juste avant. Soit parce qu'elle est nécessaire à la vie, soit parce qu'elle prend ses sources dans l'élan vital. Voilà. Et la première phrase du chapitre 2, c'est « Le spectacle de ce que furent les religions, de ce que certaines sont encore, est bien humiliant pour l'intelligence humaine. » Quel tissu d'aberration. Autrement dit, bah voilà, on fait un saut comme ça, on ne comprend pas pourquoi on arrive à la religion d'un coup. Le prof dirait « Bergson, il manque une transition. » Donc, en fait, on y est mené de deux façons. D'abord, quand même, les préceptes moraux s'incarnent dans une religion. Pourquoi ? Et donc, quel est le statut de la religion ? Surtout que, on a dit que les formes de notre vie sociale étaient produites par l'intelligence. Or, ce que dit ce premier chapitre, c'est que les formes de la vie sociale sont produites par l'intelligence, et la majeure partie des manifestations religieuses, des phénomènes religieux, sont absurdes. C'est-à-dire que de nombreux phénomènes religieux, de nombreux points religieux, sont contraires à l'intelligence. Donc comment expliquer cela ? Comment expliquer, alors que la vie sociale est produite par l'intelligence, que la religion, soit parfois, et la superstition, soit aussi contraire à l'intelligence ? Voilà, il suffit de prendre les délires de la mythologie, ce que vous voulez, voilà, c'est comment on arrive à comprendre ça. Et puisqu'on est dans une perspective biologique, il y a un second problème. Comment la religion pourrait être un produit de la vie, pourrait être un produit de la nature? Puisque traditionnellement, quand on pose l'idée d'une religion naturelle, c'est qu'on pose immédiatement que Dieu existe. Or, si on se donne Dieu, ou en tout cas si on pose la question de l'existence, en tout cas, donc soit quand si on pardon quand je reprends quand on pose l'idée d'une religion naturelle, soit on se donne Dieu, soit en tout cas on pose la question de l'existence de Dieu. Mais en fait, ces deux problèmes, savoir comment la religion pourrait être, comment la religion peut-elle être aussi contraire à l'intelligence, et est-ce que Dieu existe, ces deux problèmes-là, ce sont des visions intellectualistes et éloignées du mouvement de la vie, pour Bergson. Dans le premier cas, quand on considère que la religion est absurde, c'est parce qu'on raisonne à partir de ce qu'est notre intelligence aujourd'hui. Mais notre intelligence, elle est le produit quand même de toute l'histoire humaine. Il faut, pour comprendre la nécessité de la religion, il faut repartir de ce qu'était l'intelligence au début de l'homme, au début de l'humanité. Et deuxième question, la question de l'existence de Dieu, en fait, là aussi, c'est une question purement... est-ce que l'objet existe ou pas, hein, la question, voilà. C'est aussi une question que se pose l'intelligence, qui n'a pas de sens d'un point de vue vital. Alors que si la morale s'incarne dans une religion, c'est parce que c'est une nécessité vitale. Donc il faut voir, premier point, il faut voir que il faut essayer de comprendre en quoi la religion serait une nécessité vitale. C'est ce que montre le texte 4. Le texte 4, hein, c'est-à-dire que, puisque, voilà, la vérité est que la religion étant coextensive à notre espèce doit tenir à notre structure. Donc, autrement dit, voilà, puisqu'il n'existe pas de société sans religion, religion étant prise au sens large, puisque vous allez me dire, on est dans des sociétés laïques, mais en fait, il n'existe pas. Il suffit de prendre la société qui prétendait être le plus éloigné de la religion, la société soviétique. En fait, la société soviétique, il y avait une religion, il y avait un culte de Lénine, un culte de Staline, et donc ce culte tenait lieu de religion. Donc, il y a toujours... Voilà, il n'existe pas de société sans religion. Donc, ça veut dire qu'il y a un besoin biologique du religieux. Donc, voilà, encore une fois, pour comprendre ce besoin biologique, il faut repartir de la distinction instinct-intelligence. Et dans les premières lignes du texte, hein, vous voyez, Si on prend, considérons un animal autre que l'homme. Il use de tout. Donc là, je suis ligne 5. Il use de tout ce qui peut le servir. Croit-il précisément que le monde soit fait pour lui? Non, sans doute, car il ne se représente pas le monde. Et n'a d'ailleurs aucune envie de spéculer. Mais vous voyez, ligne 9, il se comporte évidemment comme si tout était combiné dans la nature en vue de son bien et dans l'intérêt de son espèce. Avec l'instinct, l'animal se comporte nécessairement dans l'intérêt de son espèce. Voilà. Puisque de fait, il a une connaissance interne, il sait ce qu'il doit faire, il ne se pose pas de questions. Ligne 11, faites maintenant surgir la réflexion. Cette conviction, donc la conviction de bien agir, de savoir ce qu'on doit faire, quelque part, cette conviction s'évanouira. C'est-à-dire qu'avec l'intelligence, avec la réflexion, arrive la perte d'assurance. Et en plus, le détournement de l'action. On détourne l'intelligence qui était faite pour agir, on l'utilise pour autre chose qu'agir. Donc on risque, un petit peu comme si... Voilà, à force de spéculer, on va se laisser mourir, quoi. Bah oui, on va oublier nos nécessités vitales. Donc, de fait, il y a un risque pour l'espèce. Vous voyez, c'est ce que montre la fin du texte 4. Il se sentirait perdu si l'effort pour vivre ne projetait aussitôt dans son intelligence, à la place même de la pensée, l'image antagoniste d'une conversion des choses et des événements vers l'homme, bienveillante ou malveillante. Autrement dit, si il n'y avait pas la religion pour nous rappeler que les choses sont là pour nous, pour nous rappeler un petit peu, on risquerait de se perdre. C'est-à-dire que la vie, là, se retrouve face à un nouvel obstacle. Le nouvel obstacle, c'est que l'intelligence qui était faite pour agir, elle a tendance à se détourner de l'action et à oublier son action. Et donc, forcément, que fait la vie quand elle se retrouve en face d'un obstacle? Il faut qu'elle crée quelque chose pour tourner l'obstacle. Et ce quelque chose qu'elle va créer, c'est ce que Bergson appelle la fonction fabulatrice de l'intelligence. La fonction fabulatrice, c'est la fiction, la capacité de fiction dans l'homme. Et cette fonction fabulatrice, souvent, on a tendance à croire que, justement, quand on imagine, quand on invente des histoires, c'est qu'on détourne notre intelligence de ce pourquoi elle était faite. Mais en réalité, ce n'est pas un détournement de l'intelligence, la fonction fabulatrice. C'est une création pour empêcher l'intelligence d'être nuisible à la vie. C'est-à-dire que l'intelligence va s'imaginer des choses, va s'imaginer un dieu, va s'imaginer des esprits, va s'imaginer plein de choses, donc pour justement arrêter d'être nuisible à la vie. Donc, c'est une création pour empêcher l'intelligence d'être nuisible à la vie. Les deux conséquences, qu'en tire Bergson, c'est que l'intelligence est indissociable des superstitions. Les superstitions, si j'ai pas mis mon slip porte-bonheur, je vais rater mon examen. En fait, ça, c'est indissociable de l'intelligence. C'est-à-dire que sinon, j'ai pas assez révisé pour mon examen, je vais tellement me sentir découragé que je vais pas agir. Pour agir, il faut que j'imagine cette superstition. Et donc, première conséquence, l'intelligence est indissociable des superstitions, donc ce qui nous semblait absurde ne l'est pas tant que ça. Et, deuxième chose, la religion est elle-même indissociable des superstitions. La religion, c'est d'abord un effet de la fonction fabulatrice. Pourquoi ? Parce que l'intelligence, elle aurait une tendance à nous pousser vers l'égoïsme. On aurait tendance à d'abord à réfléchir à soi. Et donc, pour maintenir la cohésion, il doit y avoir la fabulation d'un gardien, de quelqu'un qui va juger nos actions, qui va juger si on agit bien ou mal. On peut penser aux 10 commandements. C'est-à-dire que, on aurait tendance à penser à soi, et les 10 commandements nous rappellent qu'il faut penser à la société. Et les 10, avec Moïse qui monte le buisson ardent, tout ça, Ça serait une fable créée pour justement nous rappeler à nos obligations sociales. Cette première lutte contre l'égoïsme, la religion est simplement complémentaire de la morale close. C'est une obligation parmi le tout de l'obligation. Mais les deux autres les deux autres fonctions de la religion rajoutent quelque chose. Puisque l'intelligence, elle va nous pousser très vite à avoir conscience de la mort aussi. On voit ce que c'est qu'un être vivant. Voilà. On voit les autres êtres vivants autour de nous mourir. Donc on prend conscience de la mort, on prend conscience qu'on est mortel. On risque de tomber dans le désespoir. À quoi bon vivre si c'est pour mourir? Eh bien, pour empêcher la peur, pour empêcher le désespoir, on va se créer la fabulation d'une poursuite de la vie après la mort. Et donc là encore, la religion, fonction fabulatrice, elle est nécessaire pour qu'on puisse continuer d'agir malgré notre conscience de la mort. Enfin, c'est le troisième risque dissolvant de l'intelligence. Au commencement, même si l'intelligence est là pour créer des outils, avant les progrès scientifiques, l'intelligence est assez faible. Elle a peu de prise, c'est-à-dire quand vous avez juste un biface, par rapport à l'immensité des forces de la nature, bah, vous n'allez pas aller bien loin avec votre biface. C'est-à-dire, ne serait-ce que attaquer un lion ou un mammouth avec votre biface, pas évident. Donc, en fait, l'intelligence, à l'origine, a peu de force face à l'immensité des forces de la nature. Et donc, il y a une nécessité de projeter des forces agissantes, bienveillantes ou malveillantes, c'est ce dont parlait le texte 4. Il y a une nécessité de projeter des forces agissantes, bienveillantes ou malveillantes, des totems, des manas, des esprits, l'esprit de la forêt, l'esprit de ceci, l'esprit du lion, pour accompagner notre action. Et là aussi, ça évite le découragement. Avec notre tout petit outil qui est l'intelligence, si on devait vraiment faire face seul, sans rien d'autre, à l'immensité de la nature, on serait vite découragé. Là, voilà, la nature nous accompagne. Et s'il y a une force malveillante, comme il y a aussi des forces bienveillantes, il y a des moyens de se concilier les forces bienveillantes pour annihiler les forces malveillantes. Et donc ces deux dernières fonctions, hein, lutter contre la peur de la mort, lutter contre le découragement face à l'immensité de la nature, elles ne peuvent être assurées que par la religion. D'où la nécessité d'une religion en plus de la morale. Et en plus de cela, la peur de la mort, voilà, parce qu'on pourrait dire, maintenant on a une intelligence technique suffisamment forte, on a plus de quoi être découragé face à la nature. Bon, il reste la peur de la mort. La peur de la mort explique que la religion perdure, même avec l'évolution de l'intelligence. Et au-delà de ça, la religion est inscrite dans nos habitudes, et donc elle perdure aussi par une force d'inertie de la religion. Cette première religion, c'est ce que Bergson appelle la religion statique. Elle joue le même rôle que la morale close. Savoir, elle est nécessaire à la cohésion du groupe et à la survie de l'espèce. Voilà, c'est ce que montre le texte 5. Le début du texte 5, ce qui lie les uns aux autres les membres d'une société déterminée, c'est la tradition, le besoin, la volonté de défendre ce groupe contre d'autres groupes, et de le mettre au-dessus de tout. Et, juste après, hein, donc, conserver, et voilà, à conserver et à resserrer ce lien vise incontestablement la religion que nous avons trouvée naturelle. Donc, puisque la religion est commune aux membres du groupe, les membres du groupe vont se sentir soudés par la religion. Ça, c'est le premier point. Et en plus, hein, la religion se développe sous une forme... Elle remplit deux fonctions, la fonction morale et la fonction nationale. Donc elle crée... Alors national, il dit, c'est notre vocabulaire à nous, mais autrement dit, elle crée le groupe. Elle permet de créer le groupe, de fonder le groupe d'une certaine manière. Et donc, en cela, elle est nécessaire. Donc, d'une certaine manière, à partir de là, donc, vous voyez, hein, la fonction fabulatrice, la toute fin du texte 5, la fonction fabulatrice joue dans les sociétés humaines un rôle symétrique de celui de l'instinct dans les sociétés animales. Autrement dit, la fonction fabulatrice permet exactement... d'assurer la survie de l'espèce. Comme l'instinct assure la survie de l'espèce, la fonction fabulatrice de l'intelligence aussi. Et il y a un continuum qui va de la superstition à l'animisme, au polythéisme, à la polythéisme et mythologie, et au monothéisme. En fait, tout ça, c'est un perfectionnement de la religion par l'intelligence. L'intelligence va perfectionner de plus en plus la religion, et on va passer d'une religion rudimentaire, primitive, l'animisme, pour Bergson, c'est une religion primitive, au monothéisme, qui est la forme la plus aboutie de la religion, selon Bergson. Autrement dit, tout ça, c'est une complexification de la fonction fabulatrice. Et de fait, en effet, pouvoir comprendre que dans le christianisme en général, il y a une trinité, mais cette trinité est une unité aussi en même temps, voilà, ça demande une explication longue. Et donc, c'est, voilà, la fonction fabulatrice se perfectionne par là. Et par là, cette première religion statique rend possible l'existence d'un autre type de religion que Bergson appelle la religion dynamique. Et on arrive à la deuxième partie. La religion dynamique, c'est l'équivalent du mysticisme. Le rapport entre mysticisme et élan vital. Il y a un parallélisme évident entre le rapport religion statique, religion dynamique, d'un côté, et morale close, morale ouverte. La morale close est à la morale ouverte, ou plutôt la morale ouverte est à la morale close, ce que la religion dynamique est à la religion statique. C'est vraiment une analogie complète, quasiment. C'est-à-dire que la religion dynamique, c'est la disposition d'âme dans la religion dynamique va être la même que la disposition d'âme dans la morale ouverte. Il y aura la même ouverture à l'ensemble de l'humanité. Et vous voyez, hein, si vous prenez le texte 6 très rapidement, le grand mystique serait une individualité qui franchirait les limites assignées à l'espèce par sa matérialité, qui prolongerait ainsi l'action divine, telle est notre définition. Autrement dit, voilà, le mysticisme, c'est ce qui s'intéresse non plus au groupe d'hommes qui partagent la même religion, mais à tous les hommes, absolument tous les hommes, indistinctement, et voire même à tous les êtres vivants. Sauf que la différence qu'il y a entre la morale ouverte et la religion dynamique, c'est qu'en morale, les inventeurs, ils apparaissent quasiment comme miraculeux. On ne sait pas comment ils peuvent être possibles. On constate qu'ils sont possibles. Il y a des inventeurs en morale, on est forcé de le constater. Mais alors, comment ils naissent à partir de la morale close, ça reste un mystère. Alors qu'en religion, c'est plus ou moins compréhensible. C'est-à-dire que la religion, elle est nécessaire pour pouvoir comprendre la disposition d'ouverture de l'âme. Au fur et à mesure que la religion statique se complexifie, il devient possible de saisir quelque chose de l'énergie vitale. En effet, saisir l'énergie vitale dans simplement « faut pas que je passe sous une échelle » ou « faut pas que je casse un miroir sinon j'ai 7 ans de malheur », c'est difficile. Mais dans cette trinité, dans le Christ qui donne sa vie pour les autres, etc., on ressent déjà quelque chose qui est plus proche de l'énergie vitale. L'âme ouverte, du coup, va pouvoir s'emparer de cette religion, qui est close, hein. L'âme ouverte va pouvoir s'emparer de la religion, la revivifier, la redynamiser, d'où le terme de religion dynamique. C'est-à-dire, l'âme ouverte, elle prend la religion statique et elle la change de l'intérieur. Elle en fait une religion dynamique. C'est justement ce que fait le mystique. Le mystique, c'est celui, c'est une prise de contact et par conséquent une coïncidence partielle avec l'effort créateur que manifeste la vie. Cet effort est de Dieu, si ce n'est pas Dieu lui-même. Autrement dit, le mysticisme, c'est celui qui fait l'expérience, c'est ce que dit le texte 6, et puis c'est la définition traditionnellement admise du mysticisme. Le mysticisme, c'est celui qui fait l'expérience concrète de Dieu. En droit, c'est possible pour toutes les religions. Il serait possible d'avoir des mystiques dans toutes les religions. Mais si la religion n'est pas assez développée, eh bien, cette âme ouverte, soit ne va pas trouver de quoi s'ouvrir totalement et va se perdre. Ça, c'est chez les primitifs. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on trouve des sociétés extrêmement closes dans les sociétés primitives, ou si on ne respecte pas la moindre petite obligation, on est banni de la société. Donc ça, c'est le premier cas. Soit, quand la religion est un peu plus développée, mais pas assez, vous aurez compris que la seule religion complètement développée, c'est le christianisme. Pour personne. Mais quand la religion est un peu plus développée, donc quand on est sur des religions de la religion orientale, hein, l'hindouisme, le bouddhisme, alors il ne le dit pas comme ça, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Donc quand on est sur des religions orientales ou quand on est sur la religion grecque, par exemple, grecque ancienne, hein, on tombe sur un mysticisme quiétiste, donc un mysticisme sans action. Voilà. Et donc, qui est une perte quand même. Alors que dans le mysticisme complet, comme on dit les mystiques chrétiens, dans le mysticisme complet, le contact avec Dieu entraîne une action. Et une action radicalement nouvelle. En fait, du coup, le mystique poursuit l'acte créateur. Il fait rebondir l'élan vital. Il le relance. Autrement dit, vous vous souvenez, hein, l'élan tourné en cercle dans l'espèce, eh bien le mystique, il casse le cercle. Alors que l'élan vital était fini, il y a une reprise grâce au mystique de l'élan vital. L'élan vital peut reprendre, ce qui est miraculeux, ce qui ne devrait pas arriver, mais bon, ça arrive quand même. Ce qui expliquera que Bergson dit que, quelque part, l'homme... Alors, c'est pas la formulation exacte, mais l'homme, c'est l'aboutissement, pas au sens finalité, mais c'est la vie la plus aboutie, puisque c'est l'être vivant qui arrive à relancer l'élan vital. Ce qui est normalement... Alors, c'est pas l'aboutissement au sens finalité d'un terme, hein, mais... Voilà. Et le mystique... Il a pour ambition, par ses actions, par sa charité, par son amour du prochain, de revivifier l'humanité tout entière. Il veut faire progresser l'humanité, faire en sorte qu'elle coïncide enfin avec elle-même. Le mysticisme, on pourrait dire du coup que c'est une religion de l'intuition. Justement, là où la religion close était une religion de l'intelligence, le mysticisme, c'est une religion de l'intuition. Le mysticisme arrive à saisir ce qu'il y a de vital et le continuer. Donc, le mystique s'appuie sur la religion statique, mais pour lui, en fait, c'est même pas la religion statique, ça n'existe pas, puisqu'il ressent intérieurement la force de vie de la religion. Donc, voilà. Nous, extérieurement, on fait la distinction. Religion statique, religion dynamique, mysticisme. Mais parce que, bon, désolé s'il y a un mystique ici, mais la plupart d'entre nous ne sommes pas mystiques, donc on voit ça de l'extérieur. Le mystique, pour lui, voilà, c'est comme ça. Et donc, de fait, il s'empare de la religion statique, la revivifie pour entraîner les autres. Donc, du coup, il modifie la religion existante. L'exemple type du mystique, c'est le Christ. Le Christ, il trouve la religion juive, il la prend, il la revivifie. Alors après, on appelle ça christianisme, si on veut. Mais le Christ, il n'a pas l'impression de créer le christianisme. Pour lui, il poursuit le judaïsme, en fait. Il se définit comme juif. Sauf qu'il ouvre le judaïsme à toute l'humanité, etc., etc. Donc, de fait, il transforme la religion. Premier point, la religion dynamique transforme la religion close, par effet presque dialectique. Et puis, il transforme aussi l'humanité tout entière. Il transforme l'humanité tout entière. Le but, c'est l'avènement d'une... Bergson le dit à plusieurs reprises, le but, c'est l'avènement d'une humanité divine. Non pas diviniser l'humanité, mais l'avènement d'une humanité divine. Et c'est ce que montre très précisément le texte 7. Ici, Bergson prolonge et dépasse. Je disais prolongement, j'aurais pu dire dépassement moraux et politique de l'évolution créatrice. Il prolonge et dépasse l'évolution créatrice. Ce n'est pas seulement une application. C'est ce que montre le texte 7. Hein. Nous dépassons sans doute les conclusions de l'évolution créatrice. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une application, c'est une reprise de l'élan vital. C'est ce qu'il explique dans ce texte 7. qui est très important, puisque, en fait, pourquoi dans l'évolution créatrice, il y avait une volonté de se limiter, vous avez dû vous en rendre compte déjà dans le chapitre 1, puis ça continue après, une volonté de se limiter aux scientifiques, de toujours faire coïncider la doctrine de l'élan vital avec les avancées de la science. Et donc, d'où une discussion constante avec les biologistes du temps. Mais en fait, l'élan vital, en tant que création, l'élan vital, il est amour. Alors ça, c'est pas la science qui le dit. Mais quelque part, hein, certes, c'est pas la science, mais vous voyez, même si nous ne sommes plus que dans le domaine du vraisemblable, ligne 5. Mais nous ne saurions trop répéter que la certitude philosophique comporte des degrés. Donc, premier degré, c'est quand on est nickel en raccord avec la science, et qu'elle fait appel à l'intuition en même temps qu'au raisonnement. Et que si l'intuition adossée à la science est susceptible d'être prolongée, ce ne peut être que par l'intuition mystique. Quelque part, ce que dit Bergson là, il n'y a rien de contradictoire avec la science. Mais bien sûr, la science ne pourra jamais prouver cela. Donc il ne se permet pas de le dire dans l'évolution créatrice, il se permet de le dire dans les deux sources de la morale et de la religion. Donc l'élan vital est amour, et dès lors, s'il est amour, il est possible de reprendre la marche en avant. Il est possible de à nouveau contourner la matérialité, contourner les obstacles actuels pour justement revivifier l'humanité tout entière. Vous voyez, l'humanité, ligne 22, hein, l'humanité qui est au bout de cette ligne, donc ça c'est avant l'intervention du mystique, tourne dans ce cercle. Pour la prolonger autrement que par des suppositions arbitraires, nous n'aurions qu'à suivre l'indication du mystique, le courant vital qui traverse la matière et qui en est sans doute la raison d'être, nous le prenions simplement pour donné. Donc voilà. Mais, juste après, hein, tout à la fin, on peut triompher de la matérialité et retrouver Dieu. Et ce, grâce au mysticisme. On est sur la ligne 33. Et vous voyez, ligne 30... L'espèce qui est la raison d'être de toutes les autres n'est que partiellement elle-même, là, c'est quand elle ne travaille qu'avec l'intelligence. Elle ne penserait même pas à le devenir, donc à devenir totalement elle-même, si certains de ses représentants, donc les mystiques, n'avaient réussi par un effort individuel à développer. Voilà. Les mystiques, en tant que représentants de l'espèce, vont entraîner toute l'espèce vers un progrès de cette espèce, un progrès de l'humanité. Mais dans ce cas-là, c'est bien joli, pourquoi ne sommes-nous pas tous mystiques? Si c'est ce qui fait progresser l'humanité, on devrait tous aller vers le mysticisme. Bah, voilà. Pourquoi ne sommes-nous pas tous mystiques? Donc, excusez-moi, il manque un élément. Donc, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ouais, ça me laisse le temps de réfléchir, sinon je vais le faire. Je vais devoir, à mon avis, le faire comme ça. Ouais, je vais le faire comme ça. Et donc, en effet, on arrive à cette troisième partie. Comment ouvrir la société? Comment ouvrir la société? Et voilà, partie qu'on pourrait dire, mais que faire du chapitre 4 de l'évolution créatrice. Pourquoi le livre... Voilà. Ce que dit un des grands commentateurs de Bergson actuellement, dit, mais pourquoi le livre continue après le chapitre 3? Bah voilà. Normalement, on devrait tous arriver là. Voilà. On devrait tous être mystiques. Ça peut prendre un peu de temps, mais on devrait tous finir par être mystiques. Alors comment on explique que nous ne sommes pas tous mystiques, justement? Eh bien, quelque part, comment expliquer aussi les conditions actuelles de la vie ne nous incitent pas forcément à l'optimisme? Pour comprendre cela, il faut revoir un peu plus en détail. Il faut revoir un peu plus en détail l'évolution de la société. Il faut repartir de comment était la société humaine au commencement de la vie humaine, pour essayer de voir comment justement s'est développé, comment se développe et quelles sont les tendances qui nous empêchent d'adhérer au mysticisme. Quelles sont les tendances qui nous empêchent d'adhérer au mysticisme? Et quelque part, il faut voir que, en fait, il y a deux tendances, une tendance qui se divise en deux, il y a deux tendances sociales et individuelles au sein de l'humanité. Il y a, bon, de fait, hein, la tendance, cette différenciation de tendances, c'est justement le propre de l'élan vital. L'élan vital, enfin, c'est le propre de l'élan vital, et quand il rencontre la matière, il a toujours tendance à se différencier, mais c'est un même élan à l'origine. C'est un même élan. Et donc, de fait, il y a, à partir de là, toujours deux tendances qui s'expliquent même par l'intelligence. C'est-à-dire que ces deux tendances par l'intelligence, c'est que l'intelligence, elle est à la fois liberté, choix, et en même temps, tendance à l'obéissance. À l'intérieur de l'obéissance, à l'intérieur de l'intelligence, il y a à la fois la tendance à affirmer ses choix et la tendance à obéir. Et ces tendances, il ne faut pas croire qu'il y a certains qui sont faits pour obéir et certains qui sont faits pour diriger. Non, en fait, on a tous ces deux tendances en nous. On a tous ces deux tendances en nous parce que, justement, ces deux tendances, enfin ces deux aspects, sont le produit de l'intelligence. En fait, c'est deux points de vue différents sur un même fait qui est l'intelligence. Et au fond, en cela, on ne fait que prolonger l'élan vital. L'élan vital aussi, on peut toujours avoir deux points de vue sur l'élan vital. C'est ce qui fait qu'on a toujours l'impression qu'il y a une différenciation. La différenciation est toujours ces deux points de vue. Et donc, ces deux tendances au commandement et à l'obéissance expliquent qu'en fait, initialement, les sociétés humaines étaient des oligarchies ou des monarchies, forcément. Bah oui, il y avait celui qui dirigeait, et puis il y avait ceux qui commandaient. Et puis, alors, il peut y avoir des putschs, il peut y avoir ce que vous voulez, mais dans l'ensemble, il y a ces deux tendances. Et, quelque part, la démocratie, c'est justement un progrès de l'âme ouverte. La démocratie, c'est un progrès de l'âme ouverte, c'est un progrès qui... c'est une lutte contre ces deux tendances, contre l'intelligence. C'est-à-dire que normalement, ces deux tendances qu'on retrouve partout, ces deux tendances, généralement, elles se matérialisent en espèces différentes. Vous voyez, bah, typiquement, normalement, il y a la tendance qui va donner l'instinct et la tendance qui va donner l'intelligence. Ça donne des espèces différentes. Mais là, ces tendances, elles sont internes à l'homme. Elles sont internes à la société. En nous, il y a cette tendance à la liberté et cette tendance à l'obéissance. Et dans la société, toute la société s'organise autour de ces deux points de vue sur la tendance. Et comme elles tendent à la différenciation, ces deux mouvements se succèdent. L'un pousse son avantage jusqu'au bout. On va pousser la liberté jusqu'au bout, puis paf, il y a un retour. Après, on va pousser la tendance à l'obéissance. C'est-à-dire que l'un se pousse jusqu'au bout, et puis quand il est allé trop loin, bah, l'autre prend la place. C'est ce qui explique la distinction entre progressisme et conservation et conservatisme dans la société. En fait, conservatisme et progressisme alternent l'alternance. Voilà, l'alternance politique aussi s'explique comme cela. L'alternance politique s'explique parce que y a une tendance qui pousse et puis elle va jusqu'au bout. Puis après, il y a une deuxième tendance qui prend la place. On peut aussi évoquer quelque chose dont on parle un peu plus actuellement, qui sont les effets de backlash. Le backlash, c'est ce qu'on appelle le retour de bâton. On en parle beaucoup à propos des conquêtes féministes actuellement. C'est-à-dire que, voilà, le retour de bâton, c'est par exemple les retours sur les lois contre l'avortement qui sont prises actuellement aux États-Unis. Ça, c'est un effet de retour de bâton. C'est-à-dire qu'on a poussé le progressisme et puis paf, d'un coup, ça revient dans l'autre sens. Donc, à partir de ces deux tendances, on peut tirer deux lois qui organisent cela. Il y a la loi de dichotomie. C'est-à-dire que la loi de dichotomie, c'est le fait que chacune de ces deux tendances va se différencier. Il va y avoir une tendance à la différenciation. Donc voilà, les progressistes et les conservateurs, ça irait sûrement que quand vous êtes progressiste, il doit y avoir des choses bien chez les conservateurs, mais vous ne pouvez pas le reconnaître. Vous avez une volonté de vous différencier du conservateur. Même chose, quand vous êtes conservateur, il doit y avoir sûrement des choses bien chez les progressistes, mais vous ne pouvez pas l'accepter. Donc il y a une tendance à la dichotomie. Voilà. On ne reconnaît pas l'autre tendance. Voilà. Voilà, tout simplement, si on reprend l'origine, liberté, obéissance, il est difficile, quand vous vous affirmez libre, de reconnaître en même temps votre tendance à l'obéissance. Bah non, vous êtes libre. Voilà. Et donc, vous ne voulez pas reconnaître la deuxième tendance. Donc ça, c'est la première loi, la loi de dichotomie. Et puis, il y a une deuxième loi, qui est la loi que Bergson appelle la loi de double frénésie. À savoir que ces deux tendances visent à pousser leur avantage au maximum. Elles refusent de se limiter. La loi de double frénésie. La loi de double frénésie, donc, c'est le refus de se limiter. Sûrement que voilà, les conservateurs et les progressistes, s'ils s'entendaient, s'ils discutaient calmement, ils pourraient se modérer les uns les autres et éviter les excès d'un côté comme de l'autre. Mais ils ne sont pas capables de ça, puisque la tendance veut aller jusqu'au bout. Or, face à l'industrialisation, face au machinisme, cette deuxième loi, la loi de double frénésie, est extrêmement dangereuse. C'est-à-dire que, pourquoi elle est extrêmement dangereuse ? Parce que si on pousse l'industrialisation trop loin, on risque de tout détruire. C'est-à-dire qu'on est actuellement dépassé par... On est dépassé par une technique surpuissante et surdimensionnée. Et on est perdu face à cela. Et donc, de ce fait, on arrive au dernier point qui est le besoin de mystique. On va avoir, pour résoudre les problèmes, on va avoir besoin de mystique. L'évidence, ça serait de croire que l'industrialisation, le machinisme, est un produit de l'intelligence calculatrice pure. De fait, hein, vous voyez, l'industrialisation, elle s'appuie sur la science, elle s'appuie sur tout ça, donc ça devrait être le produit de l'intelligence. Mais justement, nous sommes trompés, en croyant cela, nous sommes trompés par les développements ultérieurs de l'industrialisation. Il faut revenir à l'élan initial qui a poussé à l'industrialisation. D'abord, quand même, l'industrialisation est rendue possible par des grands génies, donc qui sont quand même, d'une certaine manière, des inventeurs. Donc ça, c'est le premier point. Et puis surtout, l'élan initial, c'est un élan mystique. Ce qui a rendu possible l'industrialisation, c'est la mystique, en fait. C'est ce que dit, hein, vous voyez. Le mysticisme vrai, complet, agissant, aspire à... Le texte 8, tout au début. Le mysticisme vrai, complet, agissant, aspire à se répandre, en vertu de la charité qui en est l'essence. Donc voilà, puisque dans le mysticisme on est charitable, bah, pour que la charité puisse s'appliquer, il faut quand même se tourner vers les autres. Comment se propagerait-il, même dilué et atténué comme il le sera nécessairement, dans une humanité absorbée par la crainte de ne pas manger à sa faim ? L'homme ne se soulèvera au-dessus de terre que si un outillage puissant lui fournit le point d'appui. Il devra peser sur la matière, donc il devra peser sur la matière s'il veut se détacher d'elle. C'est-à-dire que la charité, pour se répandre, a besoin d'un homme qui mange à sa faim. C'est-à-dire que pour que l'homme soit réceptif à l'amour, au courant d'amour divin, il faut déjà le nourrir. D'ailleurs, c'est quand même une des premières tâches de la charité, c'est de nourrir l'autre. Donc, et de fait, même chose, pour pouvoir sentir le courant divin, le courant mystique, eh bien, il faut s'affranchir de la matière. Il faut pouvoir avoir pris, voilà, que la matière ne compte plus. Or, ça, c'est justement ce que va permettre l'industrialisation. Dans l'industrialisation, la matière devient malléable. Donc, en fait, l'élan initial de l'industrialisation, c'est un élan mystique. C'est une volonté de faire que la matière soit quantité négligeable. Qu'on puisse faire autre chose que la matière. Le problème, c'est que cet élan initial de cette industrialisation, cet élan initial, il a été détourné. Il a été détourné vers le luxe. Hein. On ne l'a pas assez remarqué parce que la mécanique, par un accident d'aiguillage, a été lancée, donc on est à la ligne 8, a été lancée sur une voie au bout de laquelle était le bien-être exagéré et le luxe pour un certain nombre, plutôt que la libération pour tous. Autrement dit, l'élan initial qui était mystique, qui a lancé l'industrialisation, a été détourné vers le luxe et vers l'accroissement des inégalités. Et c'est exactement ce que l'on constate aujourd'hui avec le capitalisme et avec les progrès techniques. C'est-à-dire qu'on a les moyens scientifiques, techniques, de résoudre la faim dans le monde, de lutter contre, il y aurait des moyens de tourner la technique vers la lutte contre le réchauffement climatique, par exemple. Et au lieu de ça, on tourne cette technique pour créer l'iPhone 823. Bah, pourquoi ? Voilà. C'est-à-dire que, même chose, on aurait les moyens, vu la richesse produite, on aurait les moyens de répartir plus équitablement la richesse. Elle n'est pas répartie équitablement. Alors comment on l'explique ? C'est-à-dire que l'industrialisation, le machinisme, il a accru notre puissance. Il a accru notre puissance d'agir au-delà de ce qui était prévu par la nature. Vous voyez, c'est ce qui explique, autour de la ligne 15, hein. La découverte de nouvelles énergies, je résume un petit peu, les nouvelles énergies sont venues donner à notre organisme une extension si vaste et une puissance si formidable, si disproportionnée à sa dimension et à sa force, que sûrement il n'en avait rien été prévu dans le plan de structure de notre espèce. Donc là, on est ligne 17, 18, 19. Voilà. L'industrialisation, le machinisme, nous a poussé au-delà de ce qu'avait prévu l'élan vital. Donc on se retrouve avec un corps immense, puisqu'au fond, l'ensemble de nos outils, l'ensemble de nos machines, l'ensemble de nos usines, nos fusées, sont des extensions de notre corps. Bon, l'exemple le plus simple, c'est ça. Prenez un portable à un élève et vous comprenez que, en fait, le portable, c'est l'extension du corps. Les machines sont l'extension de notre corps. Donc on se retrouve avec un corps immense et une âme. Vous voyez, or, ligne 22. Or, dans ce corps démesurément grossi, l'âme reste ce qu'elle était, trop petite maintenant pour le remplir, trop faible pour la diriger. C'est-à-dire qu'on est en face d'un corps immense, mais l'âme est restée identique, est restée ce qu'elle était à ses débuts. Donc, du coup, on sent le vide. Et on est incapable de diriger comme il se doit ce corps immense. D'où l'ensemble des problèmes. Le problème de surconsommation, c'est pour justement combler ce vide d'âme. Et puis les problèmes sociopolitiques, les dictatures, la violence politique, c'est encore une fois parce qu'on est perdu. On n'a pas de moyens de se diriger entre nous. Alors, Bergson pense clairement au fascisme qui est clairement un enfant de l'industrialisation. Et voilà, clairement, on est perdu. On est perdu et donc tous les défis, toute la domination est liée à cette perte d'âme. Et donc la seule solution, ce serait de retrouver l'élan mystique. Voilà, pour se sortir du vide, il faudrait de nouvelles réserves d'énergie potentielle, cette fois morale, ligne 26. Ne nous bornons donc pas à dire, comme nous le faisions plus haut, que la mystique appelle la mécanique. Ajoutons que le corps agrandi attend un supplément d'âme et que la mécanique exigerait une mystique. Autrement dit, la seule solution pour pouvoir bien vivre, pour pouvoir se sortir des impasses dans lesquelles l'industrialisation nous a menés, c'est qu'un mystique suffisamment puissant, justement, modifie notre civilisation industrielle comme le Christ a modifié la civilisation juive. Pour conclure, est-ce que cela doit nous engager à l'optimisme, puisque c'était un peu, voilà, je retrouve un peu, c'était un peu l'enjeu de cette troisième partie, c'est qu'est-ce qu'on fait de toutes ces conclusions, qu'est-ce qu'on fait pratiquement de toutes ces conclusions. Est-ce que ça doit nous engager à l'optimisme? Et est-ce que même Bergson lui-même est optimiste quand il dit ça? Est-ce qu'il croit à la venue possible d'un mystique qui changerait tout? Bon, malgré tout, quand même, le mystique est extrêmement rare. C'est-à-dire que le mystique complet, il y a le Christ, il y a quelques continuateurs du Christ au milieu, Catherine de Sienne, François d'Assise, voilà. Enfin, c'est pas fréquent, quoi. Donc, voilà, est-ce qu'on doit conclure en optimisme? Et en même temps, sinon, s'il n'y croit pas vraiment, ce serait quand même très triste de se dire que le penseur de la vitalité nous conduit dans cette impasse à la fin de son œuvre. Voilà. Malgré tout, de toute façon, on en est réduit à attendre le mystique. Donc, voilà. En attendant le mystique, que peut-on faire? En attendant le mystique, il faut se souvenir d'une chose que j'ai développée juste avant. Les deux tendances, liberté et obéissance, n'en sont pas vraiment deux. Les deux tendances n'en sont qu'une seule. Donc elles peuvent, même s'il y a la loi de double frénésie, elles peuvent malgré tout se modérer. D'ailleurs, c'est ce qui arrive, quand on n'est pas brésilien, c'est ce qui arrive dans une alternance démocratique, normalement. Bah, dans une alternance démocratique, voilà, quand on prend le pouvoir, ok, on dit du mal, et certes, on va changer de direction, mais vous voyez, quand Mitterrand arrive au pouvoir, est-ce qu'il change vraiment de direction? Disons pour l'instant qu'il change de direction, mais bon, bah, voilà, les giscardiens ne sont pas pendus en place de grève. Voilà, on est dans une alternance démocratique. Et quand Chirac arrive au pouvoir en 95, les Mitterrandiens ne sont pas pendus en place de grève. Voilà, ça se fait comme ça. On peut modérer quand même. Autrement dit, la loi de double frénésie, en tant que loi sociale, on peut peut-être lutter contre, quand même. Et voilà, même dans une démocratie, avoir conscience que conservatisme et progressisme sont en fait deux points de vue sur une même tendance, avoir conscience de ça, ça pourrait permettre de limiter les excès, quand même. C'est justement ce que propose Frédéric Worms, qui est donc, j'en ai déjà parlé, c'est celui qui disait « Pourquoi le livre continue ?» Frédéric Worms a fait un livre qui s'appelle « Les maladies chroniques de la démocratie », où justement, donc, c'est un grand connaisseur de Bergson, il montre que justement, il y a les maladies qui menacent la démocratie, on peut malgré tout les soigner. On peut, si on prend soin de la démocratie, sans être mystique, simplement prendre soin. Savoir que, voilà, en nous, même si on est le plus fervent progressiste, en nous, il y a du conservatisme. Si on est le plus fervent conservateur, savoir qu'en nous, d'ailleurs, c'est ce que font les conservateurs, voilà, en nous, il y a un progressisme. Et donc, s'entraîner à modérer, s'entraîner à lutter contre les tendances de violence qui sont un peu naturel aussi, puisque la vie, la seule peine qu'elle connaît, c'est la peine de mort. Ok, voilà. Sauf que, justement, les progrès de l'âme ouverte, l'ensemble de la justice, de la loi du talion, qui est déjà une limite de ce qui pouvait exister avant, jusque l'abolition de la peine de mort, c'est justement des progrès de l'âme ouverte. Et donc, on peut aller vers ça. On peut essayer de limiter cette tendance à la violence, en espérant qu'un jour, le mystique vienne. Voilà.
Le mystique viendra peut-être. Donc, merci Nicolas. Alors, donc, la parole est à la salle.
J'ai déprimé tout le monde avec.
Non. Alors, donc, première question.
la religion amène la cohésion du groupe et la survie de l'espèce.
La religion statique.
La religion statique. Oui. Mais quand il y a plusieurs religions dans une même société, ça ne crée pas aussi la zizanie, ça ?
Ben. Il y aurait plusieurs réponses possibles. Au fond, encore une fois, on pourrait voir que la tolérance puis la laïcité, après, qui est un progrès, hein, c'est pas la même chose, tolérance et laïcité. Je fais court rapide, c'est bon, ou la différence entre les deux ou... Donc non, la différence. Donc la tolérance puis la laïcité, ce sont des progrès de l'âme ouverte. Ce sont des progrès, c'est une ouverture de la société. Donc, si vous voulez, la simple existence de plusieurs religions à l'intérieur d'une même société montre déjà qu'on a un peu ouvert la société. Donc, forcément, comme la religion statique a tendance à refermer le groupe de religieux sur lui-même, il va y avoir des frictions. Mais le fait que ces religions puissent coexister à l'intérieur d'une même société, c'est déjà un progrès. Voilà, je ne sais pas si je réponds. Ouais. Ah, il y a quand même eu des fanatiques religieux avant. Voilà, vous voyez, déjà les pharisiens, c'est presque une forme de fanatisme religieux, d'une certaine manière. Donc non, enfin, si vous voulez, la différence, mais alors là, on quitte complètement la différence, c'est que donc l'industrialisation créant un vide, ce vide a peut-être tendance, parmi les symptômes qu'il peut donner, à favoriser un fanatisme religieux. Un fanatisme, puisque, voilà, le fascisme est un fanatisme religieux malgré tout, en fait.
Oui ?
Vous nous avez dit, c'était quelque chose qu'on n'a pas encore abordé dans l'évolution de Patrice, mais que l'élan vital était fini.
Oui.
Et c'est ce qui semble justifier la théorie du mystique, enfin le développement du mysticisme, en gros, c'est une grosse pour pallier à la disparition de l'élan vital. Comment Bergson passe de l'un à l'autre, comment on constate depuis que l'élan vital est fini et le remplace-t-il par...
Alors, l'élan vital est fini parce que c'est un élan. C'est une poussée.
Ah oui, c'est une poussée.
C'est une poussée, donc voilà.
Ça fait une force.
Hein ?
Une force.
Alors, il a dû m'arriver de dire force à la place, mais c'est une poussée, c'est un élan. C'est vraiment, il y a une poussée, et donc forcément, on peut constater à un moment, en fait, quand on dit force, c'est qu'on prend un point de vue sur cet élan. Voilà, si je fais rouler la bouteille, à ce moment-là, il y a une force qui pousse la bouteille, mais malgré tout, la bouteille s'arrête. Elle recule. Alors là, c'est compliqué. Voilà. Donc, voilà, si c'est un élan, il doit être fini. Donc ça, c'est le premier point. Le mystique, d'abord, il n'est pas justifié. Il est là. On constate, il y a des mystiques. Voilà. Ça, donc, c'est comme il y a des âmes ouvertes. Mais ces mystiques, voilà, ils sont, et quand on lit les textes des mystiques, ils sont en contact avec le courant de vie. Ils sont en contact avec la vie tout entière. Et donc, c'est pour ça que Bergson parle de reprise et eux-mêmes se définissent comme en contact avec la vie tout entière. Et voilà, vous avez plein de phrases chez Maître Eckhart, jusque chez Simone Weil, qui est une mystique un peu étrange, mais qui est quand même mystique, où en fait ils disent Dieu est en moi. En fait, c'est Dieu qui agit à travers moi. Donc ils sont en contact direct avec Dieu. Contact direct avec Dieu, contact direct avec la vie, reprise de l'élan créateur, donc en fait reprise de l'élan vital. Et donc quelque part, autrement dit, Ça, là, clairement, je parlais d'optimisme, la part d'optimisme chez Bergson, elle est là à 100%. C'est-à-dire que, avec, bah oui, on peut quand même retrouver cet élan vital. Là, il y a de l'optimisme, clairement.
C'est qu'il
n'a
pas disparu.
Bah, c'est qu'il tournait, en fait, il tournait en boucle. Il tournait en boucle. Dans chaque espèce, il tourne un peu en boucle. Il est enfermé dans un cercle. Et le mystique, c'est ce qui casse le cercle.
Alors, moi, j'ai une petite question. Il a été question de Dieu.
Ah, je... c'est ce qu'il existe.
Et donc, effectivement, en même temps, quand même, au départ, l'idée que l'élan vital, c'est un courant qui n'a pas de but.
Non.
Or, comment se peut-il, et est-ce que c'est la même chose d'ailleurs? Est-ce que l'élan vital, c'est Dieu?
Moi, c'est comme ça que je l'ai compris.
Ah, bah oui, mais le problème à ce moment-là, si c'est Dieu, Dieu, puisqu'il est chrétien, ben Dieu personne. Il y a quelque chose qui me paraît difficilement compatible.
Non, alors,
parce qu'un Dieu personne, c'est quand même un Dieu qui a... je dirais, qui se définit comme une volonté qui s'adresse aux hommes, qui témoigne de sa présence. Et je ne vois pas comment cela pourrait être compatible avec cette idée d'un élan vital qui est, au fond, un courant indéterminé, dont on ne sait pas, dont on ne peut pas dire quel est le but. Hein, voilà, c'est ça. Et en même temps, ce qui est aussi qui m'a troublé, ce qui me trouble toujours, c'est cette idée de progrès. Alors, l'idée de progrès, s'il s'agit d'un quelque chose qui avance et qui contourne des obstacles, je comprends. Mais dans le propos de Bergson, il semble que le progrès soit tout de même aussi subordonné à une finalité, puisque on marque des étapes, il y a des religions qui sont supérieures à d'autres, il y a... Enfin, non, mais c'est un peu... On peut avoir l'impression, je me fais l'avocat du diable,
oui.
Si je peux me permettre,
oui.
d'un propos qui reste même assez ethnocentrique, et qui finit par voir dans la religion chrétienne, au fond, la réalisation suprême, finalement, ouais. De l'élan vital.
Sur la fin, je rejoindrai tout à fait. Et le chapitre 2 est d'ailleurs à ce propos extrêmement vraiment dans son époque, les années 30, où quand même les primitifs sont quand même voilà, c'est un peu on sent bien qu'ils sont moins évolués que nous, quoi. C'est un peu ça, et clairement là-dessus je te rejoindrai. En revanche, rattacher donc l'élan vital, c'est Dieu, je pense qu'on peut le dire de manière assez nette, c'est quand même clairement, c'est dit. D'ailleurs, je me demande si c'est pas dans un des textes que j'ai.
Oui,
non, voilà.
Sans doute, mais ça pose problème.
Bon, mais non, justement. Non, la suite. C'est-à-dire, rattacher le Dieu à une personne et à une volonté, ça, c'est une vue de l'intelligence. Ah, là, c'est une vue de l'intelligence. Quand on saisit intuitivement ce qu'est le courant vital et donc ce qu'est Dieu. Bah, c'est pas une volonté, c'est une création.
Alors pourquoi il choisit le christianisme?
Je pense qu'il choisit. Alors là, il faudrait. Je demanderai à qui de droit. J'aurais tendance à dire qu'il choisit d'abord, justement, cette idée de Trinité. Ce truc très étrange qu'est la Trinité. L'Esprit Saint, c'est quand même une manifestation. Presque dépersonnalisé. Vous voyez, les langues qui descendent. Donc il y a ça. Il y a l'idée du Christ qui meurt, du Dieu fait homme. Je pense qu'il y a ça aussi qui m'intéresse beaucoup. Et quelque part, en effet, c'est la seule religion qui parle du Dieu fait homme, le christianisme. Et donc clairement, voilà, l'humanité divine, c'est pour ça qu'il choisit le christianisme. Après, c'est ce qu'ils disent. D'ailleurs, parce que bon, il se définit pas comme mystique, mais il dit quand même, quand un mystique parle, il y a le mysticisme qu'on fait taire en nous qui pointe le bout de son nez quand même. Mais et donc de fait, il dit aussi que les mystiques ont n'en ont que faire de la théologie officielle. Donc voilà, il choisit le christianisme parce que, je pense, voilà, il y a cette idée du Dieu fait homme, il y a cette idée de charité presque poussée à l'extrême, il y a cette idée du Saint-Esprit qui rejoint le courant vital, les langues de feu, et en revanche, il n'y a pas de volonté divine, justement, il y a une création divine. C'est pas la volonté, c'est de la création. C'est l'élan créateur. Et prendre ça pour de la volonté, c'est justement, on retrouverait presque ce qu'il dit dans l'essai. C'est-à-dire, croire que la liberté, c'est la volonté, non, la liberté, c'est de la création.
Oui, mais bon, enfin, voilà. En même temps, j'entends bien, oui. Mais comme il se rattache au christianisme, ce qui est une religion qui met au centre, effectivement, Dieu créateur, qui est construit comme une personne, tout de même. C'est pour ça que se pose la question. Parce que le courant vital, l'élan vital, c'est quand même quelque chose d'assez impersonnel.
Oui, mais alors, Dieu créateur, c'est quand on prend la Genèse, quand on prend Saint Jean, au commencement était le Verbe.
Oui, mais...
Okay. Voilà.
Et en même temps, oui, puis je ne veux pas accaparer la parole, c'est ma dernière question. Et est-ce que l'élan vital, il s'arrête, enfin, est-ce que l'homme, c'est le centre? Non, c'est pas le centre. Est-ce qu'il peut, est-ce que l'espèce humaine peut disparaître et l'élan vital se poursuivre?
Oui, alors oui, mais ça serait dommage. Parce que dit personne, ça. Oui, ça, il y aurait de l'élan vital, mais ça serait dommage. C'est-à-dire que voilà, justement, hein, c'est. Quand le texte où il dit que l'humanité est pas vraiment elle-même. C'est peut-être ce que disaient les dinosaures, oui, tout à fait. Voilà. Dans le. Quand il parle de. Ah, je le retrouve plus. Quand c'est sur le mysticisme. Voilà. L'espèce, voilà, vous voyez, texte 7, ligne 30. L'espèce qui est la raison d'être de toutes les autres. Sur Terre, en tout cas, il y a cette idée d'avoir pluralité des mondes. Bon, donc, j'en ai pas trop parlé parce que c'est un peu complexe, mais vu que l'élan vital se développe en gerbe. Sur Terre, l'élan vital a rencontré une matière qui n'était pas bien faite pour lui, et donc, du coup, il a dû tourner des obstacles. Voilà. Il y a sûrement d'autres mondes où là, l'élan vital a rencontré une matière beaucoup plus adéquate, et donc, du coup, qui a donné des créations beaucoup plus... Voilà, où justement, je pense que, voilà, une espèce qui n'aurait pas dû en passer par l'intelligence, par exemple. Voilà. Néanmoins, sur Terre, on est la forme... Donc du coup, c'est cette raison d'être de toutes les autres, c'est cette formulation de la raison d'être de toutes les autres est très gênante, puisqu'on pourrait croire à un finalisme. C'est pour essayer de concilier, pour essayer de tourner la contradiction, quand on est en face d'un problème, on tourne le problème. On est la raison d'être de toutes les autres espèces parce qu'on est la forme la plus aboutie de la vie. Voilà. On est la forme la plus poussée de la vie. Et donc, par là... On est qu'une... Et pourquoi on est la forme la plus aboutie de la vie? Parce qu'on est... On rejoint le mysticisme. Parce qu'on est capable, nous, de faire rebondir l'élan vital. Ce que les autres ne sont pas capables de faire.
C'est l'être, nous sommes l'être qui prolonge,
voilà,
l'élan vital, d'accord.
Et donc, de fait, on peut disparaître, mais bon, on perd le truc cool.
Il y aura peut-être autre chose.
Oui, peut-être. Peut-être même qu'on peut disparaître. Ça, on peut pas... Si on fait rebondir l'élan vital, on peut peut-être disparaître pour une surhumanité. Surhumanité, qui est un terme qui apparaît dans l'évolution créatrice, donc la notion de surhomme. On sent clairement qu'il y a une discussion avec Nietzsche chez Bergson, et qui disparaît, enfin, il fait tout pour gommer le nietzschéisme dans la suite. Oui, on pourrait imaginer une nouvelle espèce.
Voilà. Question.
L'élan vital qui est fini, c'est une volonté. L'élan vital, c'est Dieu.
Ouais. Alors, moi, il dit que l'élan vital est fini dans l'évolution créatrice. Voilà. Et oui. Là, oui. Là, on est en face d'un vrai problème. Là. L'élan vital est Dieu. suis d'accord. C'est-à-dire que la finitude de l'élan vital, elle permet d'expliquer une chose qui est quelque part que chaque espèce se consolide à un moment donné. On est traversé par l'élan, et donc si on est traversé, pourquoi on n'est pas traversé en continu par cet élan ? Il retombe. Et donc, de fait, voilà. Ça, c'est que ouais, le courant est, voilà, est pas infini. Il est passé. Et donc, s'il est passé, c'est que... voilà. Et donc, mais en effet, je suis d'accord avec vous, ça pose un problème avec la divinité de cet élan vital.
C'est presque décevant. On a l'impression, en cours de route, qu'il abandonne sa notion très riche, de l'élan vital, pour basculer sur une notion religieuse.
Non.
C'est certainement un résumé, mais enfin, c'est bon.
Alors, une manière. Une manière de le dire, et donc, parce que c'est vrai que ça peut. Une manière de résoudre le problème, en fait, il n'abandonne pas l'élan vital. Il maintient, et de fait, à chaque fois où il tend à assimiler, il ne l'assimile jamais complètement, l'élan vital et Dieu. Il dit qu'on pourrait, c'est toujours des formules, l'élan vital, l'élan de création qu'on pourrait appeler Dieu, Dieu qui pourrait aussi être défini par l'élan de création, par la création de vie, vous voyez, c'est toujours des périphrases. Donc il dit jamais, à aucun moment, il dit l'élan vital, c'est Dieu. C'est toujours des périphrases, et là j'ai fait un petit résumé. Ça c'est le premier point. Et néanmoins, on en revient à cette question de l'existence de Dieu. Cette question de l'existence de Dieu, donc, qu'il ne pose pas, parce que si on la pose d'emblée, on va la résoudre avec les outils de l'intelligence. Et donc, de fait, on va rater ce qui est Dieu. En revanche, le mystique qui se définit comme étant en contact constant avec Dieu, il est en fait en contact constant avec la vie. Et donc, certes, la vie, l'élan vital est fini, mais les êtres vivants, eux, se poursuivent. Il y a une génération, etc. Et donc, la dimension... j'essaye de résoudre le problème. Hein, donc, la dimension infinie, elle se retrouve là. Elle se retrouve dans cette génération. Les êtres vivants continuent. Et on pourrait dire que le mystique, il est en adhérence. Il est en contact, plutôt. Avec tous les êtres vivants, passés, présents et même futurs.
Est-ce qu'on peut faire, mais là évidemment, il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas, un parallèle entre Spinoza et Bergson, au sens où quand Spinoza parle de Dieu, il ne s'agit pas d'un Dieu-personne, effectivement, c'est un Dieu qui s'autoproduit à travers chacun de ses modes, donc c'est la force finalement qui traverse chacun, bon, d'une certaine manière, c'est ça, il y a quelque chose qui ressemble à lui-même, sauf qu'évidemment, il n'y a rien de mystique dans son propos, c'est pas par l'intuition qu'on coïncide avec lui, puisqu'on le connaît rationnellement.
Ce qui reprend clairement à Spinoza, c'est nature naturée, nature naturante. Il le dit même clairement. C'est-à-dire que voilà, le mystique.
Ce ne sont pas des termes de Spinoza.
Oui, je laisse le spécialiste. Voilà, en tout cas, lui, il le voit comme ça, clairement. Il dit, pour parler à un moment, il dit voilà, le mystique, c'est celui qui arrive à reprendre la dimension naturante de...
Oui. Voilà.
Donc la dimension créatrice. Donc, voilà, je sais pas si j'ai
répondu. Le mystique, c'est pas quelqu'un de passif.
Non.
Qui contemple passivement. La contemplation est une action.
En tout cas, celui qui contemple passivement, c'est le mystique imparfait. Mystique imparfait qu'on trouve donc dans les religions, dans la religion grecque notamment, et dans certaines traditions orientales. Et voilà, mais typiquement, voilà, le mystique quiétiste n'est pas un vrai mystique. Le mystique, il agit.
Oui, parce que coïncider avec l'élan vital, c'est en action.
Ouais. Ouais, c'est agir, c'est créer.
Alors, est-ce qu'il serait pas pour la décroissance? Non, mais c'est marrant parce qu'il pousse, il pousse, et puis il marche arrière. Le corps, il monte.
Oui, oui. Alors. Pour, en tout cas, la décroissance serait peut-être plus, je pense, il serait pas pour la, ça serait éventuellement, je pense, le truc provisoire en attendant le mystique. Soit pour corriger, soit pour attendre le mystique. Le mystique, c'est celui qui nous montrerait comment vraiment bien utiliser toute la force dont on dispose. Donc il serait, la question c'est est-ce qu'il est de gauche ou de droite, de toute façon derrière on peut pas trop il était plus clairement à l'époque, mais voyons, à l'époque il était plus identifié entre guillemets de droite, sauf que hormis ses disciplines, son discipline média qui a servi dans le gouvernement de Vichy, mais très vite après les continuateurs de la deuxième et de la troisième génération sont de gauche voire d'extrême gauche. Deleuze, qui est un des grands lecteurs de Bergson dans les années 60, est d'extrême gauche.
Il était pas, il était de droite, oui, il était radical, enfin, il était tout même très proche de la Troisième République.
Il était, en gros, il était sur les républicains. Enfin, qui est, oui, il était, ben déjà, il est démocrate, ce qui, à l'époque, n'est pas si fréquent. Mais, de par ses accointances avec le catholicisme, il est poussé vers une république un peu conservatrice.
Ce sont surtout ses disciples qui sont...
Ses disciples immédiats, Chevalier,
oui. Ouais, et qui sont quand même marqués...
Oui, oui. Bah, ses premiers disciples, parce qu'après, que ce soit Yankelevitch ou Deleuze, qui est une deuxième génération, ils sont plus de gauche. Et même chose, les lecteurs, les bergsoniens actuels, donc Worms, etc., pareil. Alors, c'est pas une gauche très radicale, mais il s'identifie comme étant clairement de gauche. En tout cas, ils se disent de gauche.
Oui. Mais le problème social n'est pas tellement abordé.
Oui, et clairement, c'est en cela qu'on peut dire aussi qu'il a une tendance un peu conservatrice. C'est qu'il y a une ignorance, alors qu'il connaît forcément, il y a une ignorance superbe des questions socialistes et marxistes. À aucun moment, il n'en parle. Alors qu'il était condisciple à Normale Sup avec Jaurès. Bon, donc, et qu'il ne s'entendait pas trop mal. Donc il en a forcément entendu parler.
Il ne s'est pas bouillé beaucoup dans l'affaire Dreyfus. Bon, ça peut se comprendre.
Oui, oui. Ouais, ouais. Il a dit des choses pas cool pendant la guerre. Pendant la guerre, il a des discours ultra, ultra nationalistes. Mais vraiment, pendant la Première Guerre mondiale, c'est... voilà. Par rapport à Alain, voilà, les deux grands penseurs du temps, c'est Alain et Bergson. Bah, Alain, il est sur le front. Il écrit le système des beaux-arts. Bon, alors certes, ce qui n'est pas très politique, mais voilà. Bergson fait des textes ultra-nationalistes.
Un de ses grands élèves, c'était Peggy, qui est mort en 14.
Alors, j'ai pas bien. Je sais pas dans quelle était leur relation entre
eux. C'était une relation un peu filiale. Enfin, Peggy admirait personne.
Ouais. Après, son exécuteur testamentaire, c'est Chevalier, qui a été ministre de l'Instruction publique sous Vichy.
Oui, et qui a même été. Est-ce que je dis peut-être une bêtise, mais est-ce qu'il n'a pas eu des ennuis à partir du moment où il a fait un discours au moment d'enterrement?
Alors, il a eu des ennuis. Là-bas, les collaborationnistes. Donc,
voilà. Ça,
les collaborationnistes lui reprochent énormément. Parce qu'il n'a jamais abandonné Bergson, qui est quand même, donc certes il est catholique, mais il est juif, Bergson. Chevalier n'a jamais abandonné Bergson. Néanmoins, en 44, il donne quand même des indications pour anéantir un maquis de résistant. Il donne des indications à la milice pour anéantir un maquis de résistant.
Ah oui, d'accord.
Donc bon, il n'est pas...
Mais est-ce qu'il est... Je croyais que Chevalier, il avait été révoqué après...
Oui,
il a été écarté au début de la guerre, qu'il était ministre.
Oui, il a été révoqué.
C'était lié à ça? Est-ce que le fait qu'il avait...
Ça n'a pas dû l'aider. Je pense qu'après, les conflits... Enfin, voilà, il faut dire d'un château l'autre, quoi. Personne ne s'aime, enfin...
Il a été enterré quasiment dans l'anonymat, personne à Garches,
oui, ouais, ouais.
En 1941, discrètement. Parce que
mais, voilà, il y a, alors Chevalier n'y est pas, mais il y a un Chevalier, on voit un représentant, on lui reproche d'ailleurs, fortement.
Alors, est-ce qu'il y a encore une question? Je regarde l'heure. Encore une question. Si vous avez une question. Bon, évidemment, il y a des problèmes qui ne sont pas toujours pleinement résolus. Quand on fait un travail comme ça, c'est sûr qu'on se pose des questions sur, par exemple, le rapport de personne à Dieu. Est-ce que l'élan vital est Dieu? C'est sûr.
Tout à l'heure, vous avez parlé, en citant Saint Jean, du Verbe. Vous pourriez détailler un petit peu plus, commenter un peu plus ce qu'est le Verbe?
Oula. c'est le début de l'Apocalypse selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et puis après. C'est très peu bergsonien, je pense, mais il y a l'idée d'une raison, et donc de quelque chose d'impersonnel, qui est créateur. Pour développer beaucoup plus, je vais quand même avoir... Ça, voilà, c'est justement une... Je pense que c'est vraiment une volonté de Saint Jean de dépersonnifier le Dieu de l'Ancien Testament.
Mais dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, Dieu crée en parlant, il dit, oui. Dieu dit...
Et Dieu dit, oui. Dieu dit. Mais donc, d'ailleurs, de fait, Saint Jean ne pense pas contredire l'Ancien Testament. Mais je pense qu'il veut insister là-dessus. Il veut insister sur l'idée que, justement, il y a une universalisation du message par le christianisme. Donc une forme d'ouverture, déjà. Je ne sais pas si mon commentaire est très succinct, je vous avouerai, parce que, étant donné que j'ai sorti ça,
Jean que se réfère le plus Spinoza, lui. Quand il parle de Dieu. Oui. Une sorte de force qui traverse les êtres.
Et même chose, hein, l'Apocalypse, alors certes, il y a des images après, entre la bête, etc., mais on sent clairement un combat qui est cette force. Oui. Je suis d'accord.
Alors, on peut clore. Alors, le chapitre 2, on va l'aborder, l'évolution créatrice, ouais, et on pensera...
Que j'ai fait à gros traits.
On repensera à ce que tu as fait. Je te remercie, en tout cas, d'être venu. Et merci beaucoup.
Juste, je sais que Bergson est difficile, si vous... Un petit livre qui est très bien fait, qui s'appelle Bergson, une philosophie de la nouveauté, par Arnaud Boinich, qui est vraiment... vraiment, qui présente très clairement... En fait, c'est un parcours à travers les œuvres de Bergson.
Et là, tu avais conseillé...
Alors, j'ai fini... Est-ce que je le conseille? En tout cas, c'est...
C'est facile à lire ou pas?
C'est facile à lire. C'est très facile à lire. Voilà. En fait, c'est Frédéric Worms qui est celui qui... mais oui, je le conseille. Il est quand même bien. Comment?
Il parle tous les matins sur France.
Il parle sur France Culture, oui. En fait, Frédéric Worms est celui qui a dirigé l'édition critique des œuvres de Bergson. C'est un grand connaisseur de Bergson, qui s'est orienté vers une philosophie du soin, philosophie de la médecine. Et justement, dans ce livre, Les maladies chroniques de la démocratie, il applique... Alors, bien sûr, il y a un pont, hein, la dimension vitale, le courant vital qui est chez Bergson, vers la philosophie du soin... Et il applique un peu ce qu'il a trouvé aux questions démocratiques, et donc notamment comment lutter contre le cynisme, comment lutter contre le fascisme, contre la violence sociale, contre...
Et puisque tu es dans la présentation des ouvrages et des conférences qui peuvent nous aider à comprendre Bergson, vous avez aussi sur France Culture, Les chemins de la philosophie, vous avez, c'est toujours enregistré, des podcasts, des émissions faites... sur Bergson.
Et je pense que c'est lui, oui, il y a Frédéric Worms.
Je donnerai les liens.
Mais c'est-à-dire que je suis pas sûr que ça aide à comprendre Bergson. C'est-à-dire que c'est un livre qui est d'inspiration.
C'est ça.
Voilà, donc
par exemple, les émissions de France Culture, elles sont pas mal, mais c'est vrai qu'elles ne peuvent pas vous parler si vous n'avez pas un peu lu Bergson.
C'est comme le Deleuze sur le bergsonisme. Il est très bien, mais il est difficile. Alors que ce livre est vraiment très, très accessible.
C'est ça.
Donc voilà. Bergson, une philosophie de la nouveauté.
Il est sorti cette année. Ouais. Voilà, moi je pense qu'on va achever la séance. Ouais. Et puis, donc je vous dis au mardi 21. mardi 25. Merci encore à toi.